L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Comme chaque samedi, 16h-18h, vous le savez, toute l'actualité des nouvelles technologies et de l'économie numérique. Justement, on va parler d'économie maintenant dans notre passion selon Saint-Net. Avec vous, Lila, et notre invité, on va parler d'économie collaborative, de droit. On va essayer de comprendre tout ça parce que parfois, c'est un peu compliqué.
Ben oui, d'autant plus que le mouvement est en plein essor.
Ah oui.
Cette fameuse économie collaborative a représenté en 2014, rappelons-le, 20 milliards d'euros, dont 2,7 pour les particuliers. Mmh. Et d'ici 2025, elle pourrait générer 268 milliards.
Donc
c'est dire le succès, oui. Le succès de ces applications. Alors aujourd'hui, ça concerne le logement, le transport, d'ores et déjà la livraison, l'éducation. Certaines plateformes ont éveillé la colère de certains acteurs traditionnels, notamment les taxis qui sont en grève depuis environ 2 semaines maintenant et qui réclament la régulation, voire la tête des VTC.
Les hôteliers aussi ont poussé leur gueulante il y a quelques temps de cela. Hein,
tout à fait, Accor qui s'est senti obligé d'annoncer son plan de transformation digitale. Donc, pour évoquer les enjeux juridiques et qui en émane. On a le plaisir d'avoir en studio Arthur Mirand.
Bonjour.
Alors Arthur Mirand, vous êtes avocat et co-auteur d'un ouvrage, Économie collaborative et droit, les clés pour comprendre, paru aux éditions FIP. On vous avait reçu sur un sujet assez proche. À l'époque, on se posait la question de la durée de vie de l'économie collaborative. On s'interrogeait un peu sur la pérennité. Alors, question pareille, un peu naïve. Est-ce que vous pensez que ces pratiques sont bel et bien installées, Arthur Mirand?
Alors, merci de m'avoir invité. Le mouvement pour nous et le livre qu'on a écrit en témoigne, et il est très présent. L'explosion de ces modèles n'est plus à démontrer, et la pérennité de cette économie-là va s'installer et ne sera pas remise en cause. On assiste cependant à des tensions qui sont en réalité dues à des à la remise en question et aux nouvelles questions que posent ces modèles économiques qu'on dit disruptifs. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que par le biais d'Internet, les nouvelles technologies, diminution de coûts, on offre un service meilleur, plus proche des utilisateurs, et on crée une nouvelle demande. Peut-être juste en deux mots, le livre qu'on a écrit, c'est l'aboutissement de notre réflexion, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on consacre du temps
que
et beaucoup d'énergie, et qu'on tient un blog.
Également.
Voilà, exactement. Donc le blog s'appelle Droit du partage, et ce livre, c'est une manière pour nous de mettre en avant une description de ce phénomène. Donc ça rejoint votre introduction. Combien ça représente, quel genre de pratique, pourquoi est-ce que nous on y voit des signes de pérennité, et puis ensuite après on met en perspective les enjeux juridiques. L'objectif n'est pas de faire du droit pour que personne n'y comprenne, au contraire c'est plutôt un livre à destination du grand public pour démontrer que toutes les problématiques sont compréhensibles par tous et peuvent être appréhendées. C'est aussi un guide pratique pour les entrepreneurs qui se lancent dans cette économie-là pour avoir une sorte de boîte à outils, des bonnes questions selon le secteur dans lequel on se lance. Et enfin, nous, c'est un double message qu'on porte. Hein. C'est un message d'optimisme fou face à ces modèles-là, une chance et un réservoir de croissance qu'il ne faut pas négliger, et le poids économique.
Un flou
et voilà,
juridique.
Ça c'est le pendant, le flou juridique qui est là. Et nous, avocats, parce que c'est ma profession, on se voit pas du tout comme des freins, on voit plutôt notre profession et les règles de droit comme des manières de sécuriser et d'encourager ces modèles-là. Il faudra cependant faire attention à ne pas avoir un excès de normes pour ne pas brider et empêcher ces initiatives de prospérer.
Alors aujourd'hui, on a un peu l'impression d'une espèce de cours des miracles. Pour prendre l'exemple, par exemple, d'Uber Pop, qui s'est vu interdire ses services en France. Mm-hmm. Itch, de son côté, continue à prospérer sur un malentendu. Aujourd'hui, où s'en est cette fameuse régulation de cette économie collaborative? Est-ce qu'il y a déjà quelques graines?
Bien sûr, ouais. Là, vous me parlez du secteur des transports, qui est, bon, là, en l'occurrence, l'actualité démontre que c'est encore une grande actualité. Je vais d'abord parler de ce qui s'est bien passé pour parler de choses qui se passent moins bien. Premier exemple, le financement participatif. Ces pratiques-là ont eu un essor pendant des années, en dehors de tout cadre juridique, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être quelque chose d'intéressant. Le législateur s'en est saisi, a fait une ordonnance bien ficelée, des règles claires, et ça a sécurisé l'ensemble de la pratique. Aujourd'hui, il y a des statuts, il y a des agréments
délivrés.
Sans que
ce soit trop pénalisant.
Voilà,
on a laissé une certaine liberté au concept.
Il y avait une liberté, on a juste pris la mesure de ce mouvement. En plus, on est dans un milieu où il y a le secteur bancaire d'une part et ensuite des nouveaux acteurs. Donc, il y a eu un équilibre et des règles juridiques adaptées qui ont été trouvées. Vous me parlez du transport. C'est un exemple, et je fais référence à la loi Thévenoud, donc celle dont tout le monde parle, celle qui a fabriqué cette infraction anti-Uberpop. De mon point de vue, elle est mal ficelée. Elle a été prise dans un empressement.
Oui, voilà, elle était faite un petit peu dans l'urgence.
Dans l'urgence.
Sur la pression, ce qui est jamais bon. Hein.
Sous la pression des groupes de taxis, dont on peut comprendre par ailleurs les enjeux. Mais prendre une loi, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, prendre une loi dans l'empressement, rajouter des normes dans des secteurs très compliqués comme celui des transports, et ben on a ajouté des textes de loi ici ou là. Finalement, ça a créé plus de problèmes que ça n'en a résolu.
Ce sont des rustines qui vont pas forcément tenir très longtemps.
Exactement, et ça a conduit plutôt à brider des initiatives. Mm-hmm. Alors après, ça en réjouit certains, ça en désole d'autres. Nous, on est plutôt en faveur d'une remise à plat de ce secteur-là dans les règles juridiques et d'essayer d'appréhender les choses autrement pour que ça soit pour du transport de marchandises ou du transport de personnes, on puisse y voir un peu plus clair.
Est-ce que ça va être le cas, à votre avis? On va être obligé de tout remettre à plat?
Bah nous, dans le cadre de notre blog et donc à la faveur de ce livre, on a été reçus par des conseillers d'Emmanuel Macron. On a fait porter nos messages. On espère que la loi Noé, Macron 2, si elle devait aboutir et être présentée finalement au Conseil des ministres, pourra porter des simplifications. Après, on peut que nous être force de proposition. L'ensemble des cartes ne nous appartient pas.
Est-ce que c'est pas également une question de fiscalisation? Il y a déjà des premières initiatives, notamment Airbnb, qui enjoint ses utilisateurs à déclarer leurs revenus aux impôts. On a déjà une première mesure, il me semble que c'est au-delà de 32 000 euros de revenus, le locataire, en l'occurrence, se voit déduire 50%.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a l'enjeu pour l'État, il y a ensuite l'enjeu pour la plateforme de survivre, ensuite il y a l'enjeu pour le particulier qui y participe. Dans le livre qu'on a écrit, il est fait un peu le tri et une segmentation des différents enjeux parce qu'ils sont pas tous au même niveau. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes particulier, vous allez vous poser la question de à partir de quel moment est-ce qu'il faut que je déclare mes revenus ou à partir de quel moment est-ce que je dois créer une société ou être auto-entrepreneur.
Aujourd'hui, il y a des plafonds.
Alors, il n'y a pas de plafond fixe. C'est là où
c'est
la beauté juridique. Mais ce qui est important, c'est de savoir si on a recours à ces plateformes-là en vue d'exercer une activité professionnelle ou en vue de gagner de l'argent ou alors juste à titre privé pour dépanner. Mmh. C'est-à-dire que pour prendre deux exemples dans les transports comme vous m'y invitiez, est-ce qu'on est juste dans le covoiturage, à savoir un point A à un point B où de toute façon on sera dans du partage de frais et où personne ne gagnera d'argent, ou est-ce qu'on est dans de la prestation de service où on déplace quelqu'un d'un point A à un point B pour un service commercial? Et en réalité, cette distinction privé-commercial, on la retrouve dans tous les modèles, dans tous les secteurs, et c'est transversal. Ensuite, pour la clarification fiscale, l'État a un vrai intérêt à une simplification et une rationalisation de tout ça, parce que c'est beaucoup d'argent qui lui échappe. Les plateformes, par ailleurs, ont intérêt à montrer patte blanche pour que l'État n'ait pas envie de les éradiquer. Donc il y a un consensus pour essayer de trouver une solution. Là encore, nous on porte des solutions pragmatiques et qu'on pense intéressantes, qu'on décrit dans notre livre. C'est notamment l'histoire de la franchise. Vous avez peut-être vu ça dans le projet de loi de finances pour 2016. Le Sénat avait proposé une franchise de 5 000 euros. Ça veut dire qu'en deçà de 5 000 euros, quelle que soit la nature des revenus, eh bien vous serez exonéré. C'est-à-dire que vous ne déclarez pas. Et là, il y a une histoire de seuil. Nous, on irait un tout petit peu plus loin pour apporter une petite distinction à savoir 5000 euros, ça peut être 5000 ou un autre, disons, fixer un seuil pour la prestation de service, donc quand vous rendez service, que vous consacrez du temps. Mmh. Et ensuite, pour des biens physiques qui sont mis à disposition, je pense à un logement, je pense à une voiture, je pense à une perceuse, je pense à plein de choses. Là, le seuil ne serait pas fixé unilatéralement, mais dépendrait de chaque objet et dépendrait de son coût d'amortissement annuel. Voilà, ça c'est des solutions qu'on porte et qui pourraient favoriser une simplification pour un peu tout le monde.
D'un côté, la fiscalisation, donc de voir plus ou moins des utilisateurs de ces services. Mmh. Est-ce qu'on pourrait également évoquer les droits, à savoir qu'on se retrouve avec beaucoup d'utilisateurs de ces services qui tendent à se professionnaliser sans pour autant avoir le statut, le bon statut. Est-ce qu'on ne devrait pas parler de refonte du droit du travail et pour aller plus loin? Est-ce qu'on ne devrait pas songer à accorder un statut peut-être de micro-entrepreneur, d'auto-entrepreneur à ces personnes? Quelle est votre position par rapport à ça?
Alors moi, je suis avocat, donc j'ai un prisme très pratique et j'ai envie plutôt de porter des messages simples et faciles à mettre en œuvre. Donc, pour moi, les règles juridiques existent et sont satisfaisantes dans une certaine mesure. La seule chose qui manque, c'est de la pédagogie et un petit peu plus de lisibilité de ces règles. Pédagogie vis-à-vis des utilisateurs et lisibilité vis-à-vis des entreprises qui se lancent dans ces nouveaux marchés. Parce que pour l'individu, il a besoin de savoir à partir de quel moment il va devenir un peu commerçant. Parce qu'il va souvent le faire sans s'en rendre compte. Ça, il y a des critères qui existent, à savoir avoir envie de gagner de l'argent, le faire de manière régulière. Donc tout ça, il suffirait de l'expliquer et de pouvoir peut-être faire de la pédagogie vis-à-vis des utilisateurs. Ensuite, il y a besoin de prévisibilité pour les entreprises qui ont besoin de savoir où elles mettent les pieds. Et ça, nous, on milite pour l'adoption, par exemple, de lignes directrices sur les facteurs à prendre en compte pour un emploi salarié ou un autre entrepreneur.
Arthur Milleron, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci beaucoup. On rappelle, vous êtes auteur de l'ouvrage « Économie collaborative et droit, les clés pour comprendre » paru aux éditions FIP.
Merci.
Merci.
Et vous restez avec nous. La suite de cet atelier avec, entre autres, notre World Tour et notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business avec, vous savez quoi, une double ration de World Tour. Et puis juste après, ce sera la rédaction de Zeronet.com et encore ensuite, le crash test d'Antoine Cyr, bien entendu. Notre premier World Tour va nous faire rêver. Enfin, cela dit, le deuxième aussi, puisqu'on va dans des destinations qui sont ensoleillées. Et en ces périodes hivernales, ça nous fait du bien. On va commencer par Sao Paulo et avec Aurore Géraud. On reçoit tout de suite notre invité.
Oui, nous sommes avec Lorena Ederer, qui est donc Regional Manager au Seed Stars World. Lorena, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, et toi? Le 11 décembre dernier, il y a eu la compétition à Sao Paulo. Alors, on va faire un petit point dessus. On va surtout faire un petit point sur le Brésil, qui est, selon toi, un écosystème atypique. Alors, pourquoi?
Oui, justement, alors, vu que dans mon travail, on avait fait 11 pays au total en Amérique latine. Brésil était le dernier art. Donc, ça faisait 6 mois qu'on parlait espagnol, que les gens s'intéressaient aux pays voisins et tout. On arrive au Brésil. De un, les gens ne parlent pas du tout espagnol, ils parlent que portugais. Et de deux, ils parlent pas un mot d'anglais. Alors, pour moi, c'était un peu bizarre. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parlait avec les Brésiliens, tu comprends vite, parce que le Brésil est tellement énorme et compliqué à gérer, en fait, en tant qu'entrepreneur, qu'il passe des années à essayer de comprendre le marché, à s'installer là-dedans, dans différentes régions, avant de commencer à imaginer à l'international.
Donc plutôt du local.
Type du local, oui. On a eu beaucoup d'entreprises qui essayent de créer des solutions aux nombreux problèmes du Brésil, mais aussi qui voient bien des opportunités.
Et tu avais un exemple notamment avec WhatsApp.
Oui. Alors, en fait, quand on était là-bas, il y a eu toute une histoire parce que le gouvernement brésilien a interdit WhatsApp pendant 24 heures. En fait, au final, ça a été 12 heures grâce à la pression de Facebook et tout le reste du monde. Mais du coup, WhatsApp est utilisé par 90% de la population brésilienne. Donc la population brésilienne, c'est quand même 200 millions. Donc imagine le nombre de personnes qui ont été coupées d'un coup par pour leur communication. Et d'un coup, en fait, les gens, ils ont commencé à tout de suite directement regarder pour d'autres solutions. Ça pouvait être des solutions un peu plus internationales comme Viber, mais par exemple Telegram aussi, qui est international, ils ont eu genre 100 millions de téléchargements en quelques heures une fois que WhatsApp était bloqué. Donc vraiment, c'est quand même un peuple très très tenace qui cherche des solutions, que ce soit locales ou internationales. Ils restent pas là à essayer de voir qu'est-ce qui se passe, on va attendre qu'ils le débloquent. Non, non, ils vont chercher directement une solution.
Alors notamment, tu avais quelques exemples en matière de mobilité qui montrent que Sao Paulo et le Brésil de manière plus générale est très étrange encore une fois dans sa manière de fonctionner.
Bah, Sao Paulo, enfin, si on peut appeler ça une ville, il a comme 1 million d'habitants, quoi.
C'est une petite ville.
Une petite ville. C'est un peu un pays pour certaines personnes, voire même plusieurs. Mais c'est très, très particulier parce que honnêtement, c'est un gros problème, le transport là-bas. Ils ont, je crois que c'était genre, ils ont 43 millions de voyages par jour, par année, un truc comme ça. Mm-hmm. Du coup, c'est un nombre de malades et ça se voit aussi sur les routes, en fait. Les gens, ils sont là. Quand ils font leur planning de la journée, c'est genre, on va rester dans un quartier et on reste là parce qu'il y a une perte de productivité tellement qu'il y a trop de trafic qu'ils font tout pour essayer de soit ne pas bouger ou sinon, ceux qui sont super riches, ils ont aussi maintenant un problème à Sao Paulo qui est genre, le ciel est plein d'hélicoptères en fait parce que les gens ont utilisé ça comme solution pour sauter le problème de trafic.
C'est curieux quand même, plutôt que les transports ou que les véhicules, on prend plutôt les airs donc.
Ah ouais, non, c'est assez marrant et puis on a vu des solutions assez spéciales en soi. On a vu après c'est quelqu'un qui m'a raconté par exemple, il y avait une start-up qui a commencé à Sao Paulo qui a fait fureur jusqu'à qu'elle soit fermée parce que évidemment en fait les gars ils ont eu cette idée très intelligente de ramasser en fait enfin de récolter des anciennes ambulances. Mmh. Et proposer des trajets où t'es garanti à arriver à l'heure. Parce que, de toute façon, ils gardaient l'ancienne apparence de l'ambulance. Et puis, ben, tu dépassais tout le trafic et t'arrivais à l'heure. Donc, ça fait un succès de malade jusqu'à que, bien sûr, le gouvernement en apprend et puis qu'il le ferme.
Donc, il y a quand même pas mal de problèmes institutionnels.
Ouais. Alors, on va dire que c'est dans ce cas-là quand les entrepreneurs te disent c'est compliqué, tu comprends vite pourquoi. Parce que c'est institutionnel et on va dire, ils ont aussi une économie un peu protectionniste. Institutionnel dans le sens que, genre, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait fermer son compte en banque au Brésil, ça lui a pris 2 ans. Et pour que le banque lui dise, bon, si jamais il y a quelqu'un qui met une centime dessus, on le réactive tout de suite. Du coup, c'est un peu là. D'accord. Quand tu demandes aux entrepreneurs, comment est-ce qu'ils font pour faire l'enregistrement de l'entreprise, c'est pas genre 30 jours, 20 jours, rien du tout. C'est genre 100 jours officiellement, et puis ils ont dit sur pratique, ça peut durer un an. Donc, c'est
un peu assez compliqué, ouais. C'est pire que la France. Merci beaucoup, Lorena.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Et après donc Sao Paulo, place pour notre deuxième World Tour, Lila, à une autre région qui fait rêver. C'est l'île Maurice, où on parle d'innovation sur l'île Maurice, bien sûr.
Tout à fait. Décidément, il fait bon d'être entrepreneur.
Ça fait du bien.
Alors, on va découvrir l'écosystème start-up et innovation de l'île Maurice. Pour en parler, on a Nicolas Goldstein. Bonjour.
Oui, bonjour Lila, bonjour François.
Bonjour.
Alors Nicolas Goldstein, vous avez fondé le Mauritius Startup Incubator, un incubateur de start-up. Donc soit une nouvelle destination pour ceux qui aimeraient avoir un point d'attache, si vous êtes bien sûr entrepreneur, peu cher et surtout proche du continent africain, à savoir l'île Maurice. Alors racontez-nous un peu en quoi l'écosystème innovation et du numérique mauricien est-il caractéristique. Nicolas Goldstein.
Oui, donc Mauritius Startup Incubator que j'ai monté a pour objectif de concilier une vie d'entrepreneur dans un cadre agréable et dynamique. Et l'île Maurice, depuis 10 ans, le gouvernement est très proactif pour aider les entrepreneurs dans les secteurs des TIC, qui va du centre d'appel au back-office jusqu'à l'informatique. Et depuis quelques mois, il y a de plus en plus de start-up mauriciennes ou étrangères qui s'installent à Maurice, tout simplement parce qu'il y a un fervent dynamisme dans les start-up. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai créé cet incubateur qui a deux vocations, aider les entreprises françaises à s'implanter à Maurice, dans le secteur des nouvelles technologies, mais également aider des Mauriciens qui ont des projets, mais qui ne savent pas les packager et toucher le continent européen pour vendre leurs solutions. Et c'est pour ça qu'on les aide et on s'est installé à Maurice en début d'année.
Alors quand vous dites que le gouvernement est très proactif, est-ce que vous auriez des exemples d'initiatives mises en place pour encourager à la fois les locaux à entreprendre, mais également les entreprises étrangères à venir s'installer à Maurice?
Oui, bah, un exemple très concret, c'est que par exemple, ils ont de la main-d'œuvre, mais elle n'est pas assez qualifiée dans les technologies qu'on recherche. Donc le gouvernement, lorsque l'on prouve que l'on va faire créer des embauches, ils sont prêts à rembourser une partie de la formation, ce qui peut aller jusqu'à 80% du formateur étranger qu'on fait venir à Maurice pour former des employés à des nouvelles technologies. Par exemple, actuellement, j'ai obtenu le droit de faire former une vingtaine d'employés mauriciens dans une technologie qui est demandée par l'Europe. Et donc, d'ici 6 mois, on va avoir une formation de 22 ingénieurs formés sous les technologies comme Drupal ou Symfony, qui sont très demandées. Mmh. Et donc, la promotion va sortir dans 6 mois. Donc, dans 6 mois, on va avoir des jeunes talentueux formés aux technologies demandées.
Et est-ce que les infrastructures sont propices oui. également? Est-ce que
vous avez du très haut débit?
Ouais.
Donc, on a du très haut débit. On a tout ça grâce tout simplement à l'industrie du centre d'appel qui s'est mis en place déjà il y a 10 ans à l'île Maurice. Donc, on bénéficie de toute l'infrastructure des centres d'appel qui sont présents sur place. Par exemple, SFR, ils ont 400 personnes sur place. Vous avez EuroCRM, vous avez beaucoup de centres d'appel qui ont été mis sur place et ils ont déjà développé toutes les infrastructures pour toucher la France et d'autres pays. Donc, on utilise cette infrastructure de grosses bandes passantes. Et concernant les locaux, il faut savoir que dans l'île, il y a un endroit qui s'appelle Eben, qui est la cybercité, où nous avons tout simplement des tours qui sont créées. Moi, j'ai connu l'île Maurice il y a 10 ans, il n'y en avait qu'une. Je suis revenu cette année, il y en a des vingtaines, voire des trentaines de tours qui sont construites. L'un des fleurons, c'est Accenture, qui est présent sur l'île depuis des années et qui a le gros des ingénieurs qui sont chez eux. Mais sinon, on a de plus en plus de petites sociétés PME qui se créent dans des secteurs bien précis des nouvelles technologies.
Alors, chose assez étonnante, vous me racontiez que l'île Maurice se lancerait dans une réflexion autour de la ville intelligente. Comment ça?
Oui. Tout à fait. Donc en fait, on parle beaucoup de Smart Cities et c'est l'un des fleurons du gouvernement pour ces prochaines années, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a un problème de transport en commun à l'île Maurice et également de pollution. Donc pour essayer de lutter contre ces deux phénomènes, ils créent des Smart Cities à chaque région dans l'île avec des problématiques bien particulières. Il y en a une qui sera spécialisée dans les fintech, l'autre qui sera spécialisée dans l'éducation, une autre dans l'agroalimentaire, une autre dans les biotech. Et pour essayer de garder des employés dans leur région. Donc en fait, il y aura des locaux qui sont créés, mais également de l'immobilier, de façon à ce que la population évite à se déplacer, parce que c'est commun que tous les jours, on fait 45 minutes de voiture, voire une heure de voiture, pour aller à son lieu de travail. Et pour éviter un petit peu tous ces déplacements-là, l'île Maurice met en place des Smart Cities qui verront le jour d'ici quelques années.
Donc l'idée, si j'ai bien compris, ce serait de booster en fait le taux d'urbanisation de l'île en concevant, en pensant ces villes intelligentes.
Tout à fait. Décentraliser la capitale qui est Port-Louis et Eben actuellement, qui est le fleuron un peu de la Silicon Valley et des centres d'appel. Donc décentraliser ces deux grosses mégapoles, villes où il y a tous ces emplois, pour les mettre ailleurs dans l'île. Donc décentraliser un petit peu ces deux grosses villes.
Et puis en plus, après, le week-end, aller à la plage. Et ça, c'est quand même assez agréable.
Exactement, c'est l'avantage de Maurice, où on a beaucoup d'activités extra Et juste pour vous dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de start-upers qui viennent tout simplement parce que ce sont des kitesurfers.
Ah,
on
oui.
a beaucoup de spots de kitesurf. Et donc, un entrepreneur français sur trois que je rencontre, ils font des kitesurfs.
Oui, c'est vrai que là, ils joignent l'utile à l'agréable, en fait.
Exactement.
Merci beaucoup, Nicolas.
Nicolas Goldschein, je rappelle, vous êtes fondateur du Mauricio Startup Incubator.
Merci.
Tout à fait.
Voilà, on vous chope un petit peu de soleil, là, on vous chippe un peu de soleil. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business avec, bien sûr, la rédaction de Zeronet.com et le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans quelques instants. On retrouvera aussi Guillaume de Grasse aussi dans une minute. Mais auparavant, comme chaque samedi, direction la rédaction de 01net.com avec Eric Le Bourleau, le rédacteur en chef de 01net.com. Bonjour Eric.
Bonjour.
Pas mal d'actualités encore une fois cette semaine. On va parler de Google, on va parler de TV 3D. Dans quelques minutes, on va parler aussi d'Internet par satellite avec quelque chose d'assez impressionnant qui va être lancé dans 2 ans. Mais auparavant, Apple qui a été sous le feu des projecteurs de 01net.com cette semaine avec cette polémique concernant des iPhones irrécupérables après une réparation.
Exactement. Ce qui se passe, c'est que ça s'est parti en fait simplement d'un photographe qui était en goguette quelque part, très loin d'un Apple Store, et qui avait un iPhone qui marchait plus précisément son capteur Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit je vais le faire remplacer au petit magasin du coin, et puis comme ça j'aurai vraiment un iPhone fonctionnel. Il y en avait surtout bien besoin. Et alors, évidemment, ça a marché. Il a pu le remplacer. Tout s'est bien passé. Il avait un iPhone qui marchait. Mais le problème, c'est qu'il a eu droit à une mise à jour.
Comme de tous d'ailleurs,
des mises à jour régulièrement d'iOS, hein. Et bien cette mise à jour, il a jamais pu la faire, et puis surtout ça a complètement bloqué son iPhone. Son iPhone tout simplement ne marchait plus.
Avec une fameuse erreur 53.
Avec une erreur 53 qui est une erreur inconnue, hein. On vous dit c'est une erreur inconnue, c'est la 53, mais on sait pas ce que c'est.
Voilà.
Donc il est parti à l'Apple Store, il a demandé j'ai une erreur 53, je voulais savoir si
Qu'est-ce qui se passe,
lui a répondu tout simplement que s'il avait cette erreur 53, c'est parce qu'il avait changé un matériel chez un autre réparateur que chez Apple, en l'occurrence ce capteur Touch ID, et qu'il n'avait pas le droit de le faire, enfin il pouvait le faire si vous voulez, mais que Apple considérait que c'était un problème de sécurité s'il le faisait, et que du coup son iPhone non seulement était sous garantie mais ne marcherait plus. Donc simplement...
C'est-à-dire que quand cette mise à jour se met en place... Il y a une espèce de contrôle de toutes les pièces de l'iPhone, c'est ça?
Exactement.
Et donc, la mise à jour détecte que il y a un souci, en tout cas, avec.
Sur le capteur d'empreinte
digitale. Cette pièce détachée qui n'est pas celle d'origine, en
Exactement.
Fait.
Exactement. Et pour Apple, c'est un problème. Et on peut, ça peut justifier en un sens.
Hein.
Effectivement, de dire que, si quelqu'un récupère votre Touch ID, peut jouer avec, récupérer vos données à votre insu, etc. Le problème, c'est que quand même, ça touche apparemment non seulement ce photographe, mais ça touche plein de gens. Et ça force, évidemment, tous les gens qui voudraient faire réparer leur iPhone à passer par un Apple Store. Apple, en fait, on sait que Apple veut toujours avoir un maximum d'emprise sur son client et sur ses produits. Et effectivement, vous oblige de facto à passer par ses propres services pour pouvoir changer des pièces détachées. Alors c'est un problème qui était connu depuis quelques temps. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu énormément de gens qui sont reconnus dans cette erreur 53, qui ont découvert cette erreur 53 et qui ont compris donc que leur problème venait d'une mise à jour, à la suite d'une réparation qui n'a pas été faite chez Apple. La polémique continue. Il y a déjà des avocats aux États-Unis qui veulent attaquer Apple sur ce point. Et puis c'est vrai qu'on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, Apple n'a pas changé de position. Et pour l'instant, si vous recevez cette erreur 53, le seul moyen c'est de racheter un autre iPhone, tout simplement.
Ah oui, on peut même pas le faire réparer par Apple.
Non, il n'est pas sous garantie puisque vous avez rompu la garantie et du coup vous n'êtes plus
sous garantie.
Vous avez juste à changer d'iPhone.
Bravo Apple. Ils sont très forts. Tiens, puisqu'on est du côté d'Apple, on va y rester avec cette fois-ci un bug assez rigolo. Sauf quand on le vit, ce bug.
Exactement. Exactement. Alors il y a quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Par exemple, si vous avez envie de vous amuser, vous ennuyer un peu sur votre iPhone, il ne faut absolument pas le remettre à la date du 1er janvier 1970. Ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que
Déjà, si on veut le faire, il faut avoir une bonne raison.
Il faut avoir une bonne raison. Moi, je sais pas, des fois, parfois.
Ouais, voilà.
En tout cas, il y a des gens qui l'ont fait, hein, parce que sur Internet, vous pouvez tomber sur des vidéos de gens qui l'ont fait. Et le problème, c'est qu'il existe un bug, mais un vrai bug, sur tous les processeurs récents Apple, depuis l'iPhone 5S, je crois, qui fait que quand vous lancez, vous réinitialisez l'iPhone à cette date, ça le fait planter complètement. Et ça, on appelle ça briquet en anglais, ça le transforme en brique, tout simplement. Vous ne pouvez même plus l'utiliser.
Il est inutilisable.
Il est inutilisable.
On peut même pas le mettre à jour, le restaurer.
Non, il y a plus moyen de le mettre à jour, de le restaurer par iTunes. En fait, si vous voulez, il rentre en boucle quand il boot et il est impossible de l'utiliser. Le seul moyen de retrouver ses fonctions serait de retirer la batterie pour enlever une petite mémoire spécifique dans un composant du système, mais c'est pas possible de le faire en tant que client. Il faudrait l'ouvrir et on peut pas changer la batterie.
On perd la garantie, accessoirement.
Et exactement, on perd la garantie. Donc c'est un vrai problème qu'Apple va devoir corriger très vite, parce qu'on pourrait se dire ouais, qui va le faire, etc. Sauf que avec un bug comme ça, des pirates et des gens qui sont un petit peu malveillants pourraient très facilement exploiter ce bug pour rendre des milliers d'iPhones inopérants. Donc on espère qu'Apple va vite corriger ce bug qui est rigolo, mais qui peut être vite très gênant, quoi.
Après le bug de l'an 2000,
c'est ça.
C'est le bug de l'année 70.
Exactement.
C'est rigolo quand même.
C'est rigolo, ouais.
On va parler maintenant de la TV 3D. Ah, ça fait des années qu'on vous en parle, de cette fameuse télé 3D. Ça fait des années que les vendeurs des grands magasins essaient de vous convaincre d'acheter une TV 3D avec les lunettes. Ça va peut-être changer tout ça.
Exactement, puisque on peut dire que là, on l'a vu déjà au CES de cette année. Il n'y avait pas beaucoup de lunettes 3D dans les stands des grands constructeurs. Eh bien, en fait, pourquoi ? Parce que c'est fini, en fait. La 3D sur la télé, c'est presque fini. En tout cas, pour Samsung, qui est quand même l'un des plus gros vendeurs de télévision au monde, c'est la fin. Samsung nous l'a annoncé, d'ailleurs, lors d'une conférence qu'il a tenue récemment, que dans ses nouvelles gammes, il n'y aurait pas spécialement de télévision compatible 3D. Et voilà, c'est
le constat d'échec, là,
C'est un vrai constat d'échec, parce qu'effectivement, il y a très peu, effectivement, de contenu accessible en 3D à la télévision. Alors, toutes les télévisions ont un mode qui permet de transformer l'image en 3D, mais c'est pas très, très satisfaisant, ça sert pas à grand chose et c'est tout simplement un échec. Alors la 3D, ça a été une belle idée, hein, qui a permis de faire vendre des télévisions peut-être à une certaine époque. Je pense que tous les gens qui ont des télés 3D chez eux ont sans doute essayé une ou deux fois juste pour rigoler, mais sans doute qu'ils ne sortent pas souvent leurs lunettes. Les fabricants de télévisions s'en sont bien rendu compte et maintenant préfèrent miser sur de nouvelles technologies, à commencer par exemple par la 4K, qui est vraiment maintenant le nouveau standard pour les télévision. Et sans doute que ça marchera un petit peu mieux que la 3D.
On va parler de Google maintenant, Eric. Google qui plancherait sur un vrai casque de réalité virtuelle.
Oui, tout à fait. Alors, on connaît déjà leur cardboard, hein, leur petit carton en carton open source. Eh bien, Google a un autre projet en tête de casque de réalité virtuelle. C'est le Wall Street Journal qui l'annonce. Et effectivement, ce casque serait très différent de ce qu'on connaît. On connaît déjà l'Oculus Rift, PlayStation VR, tous ces produits qui vont sortir cette année. Celui de Google, on n'est pas sûr qu'il sorte cette année, mais il serait très différent des autres pour un seul point, c'est-à-dire qu'il serait indépendant. Vous achetez un Oculus Rift, il vous faut un puissant PC à côté pour pouvoir...
Et des câbles branchés partout.
Idem pour le HTC Vive, hein, qui est un très beau casque, mais qui vous donne un fil à la patte, oui. Si vous voulez.
Et puis, il faut installer des capteurs dans la pièce.
C'est très compliqué. Voilà, Google a une autre idée derrière tout ça, c'est vous achetez un casque et c'est tout. Vous n'avez pas de téléphone à mettre dedans, vous n'avez pas le brancher à un PC, vous avez un casque et il est autonome. Alors, il tournerait sans doute sur une version spécifique d'Android pour la réalité virtuelle, il aurait forcément une batterie, forcément
un processeur,
etc. Ce serait un vrai ordinateur. C'est un peu ce que fait aussi Microsoft avec HoloLens, hein, son casque, mm-hmm. Qui est un casque autonome. Mais on se demandait ce que Google allait pouvoir nous pondre en matière de réalité virtuelle. Voilà, en fait, ils sont très sérieux et ils vont bien sortir un nouveau casque. Voilà, peut-être cette année, mais sans doute plutôt l'année prochaine.
On a aucune idée du prix, bien évidemment.
Non, pour l'instant, pas de prix. Ça pourrait être un petit peu cher, parce qu'on sait que les casques de réalité virtuelle qui sont aujourd'hui proposés bientôt, enfin l'Oculus Rift a commencé par lui, hein, sont très chers. C'est des matériels qui sont pour l'instant un petit peu même des prix rédhibitoires. Donc on espère que Google pourra faire un effort de ce côté-là aussi.
Voilà, notez que Sony aussi s'apprête à sortir
son PlayStation VR.
Voilà,
PlayStation VR. Pour la PlayStation 4. Mais là, encore une fois, il faudra une PlayStation 4, évidemment, pour en
profiter. Évidemment. On va maintenant enchaîner avec une collection Internet imaginée. on va dire presque universel, qui fonctionnera à peu près partout sur le globe, grâce aux satellites. Alors ça existe déjà, hein,
ça existe déjà
par satellite.
Ouais, tout à fait.
Mais là, on va, passer à une, on va dire à une autre étape.
Exactement.
Avec du très très haut débit n'importe où.
Voilà, exactement. Bah, alors, c'est un programme qui est lancé par la firme américaine Viasat, qui va lancer dans les années qui viennent. Alors ça va s'échelonner à partir de l'année prochaine jusqu'en 2020. Il y aura 3 satellites qui vont être lancé donc qui vont permettre à des gens d'abord aux États-Unis puis après sur toute l'Europe d'accéder à internet à très haut débit. À très haut débit, c'est-à-dire à 100 mégabits par seconde. Alors 100 mégabits par seconde, si on compare avec la DSL, c'est un peu plus de 3 fois plus rapide que de la DSL.
En plus même parce que c'est 20 mégas hein,
20
la
mégas,
DSL, donc c'est 5
jusqu'à 30, mais c'est vrai
ah, avec le VDSL, d'accord.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que la DSL. Et on n'atteint pas encore le stade de la fibre optique,
mais
c'est déjà très très bien.
Si tout le monde pouvait avoir 100 mégas à la maison.
Exactement. Et d'autant que ce serait évidemment accessible partout, y compris en pleine campagne. Hein. Si vous avez une maison où il n'y a pas du tout la DSL, où vous ne pouvez même pas en rêve avoir de la fibre optique, eh bien là, vous pourriez avoir du très haut débit à
grâce
domicile.
À une petite parabole qu'on installerait sur le toit de la maison.
Exactement. Alors ça va arriver donc dans les. Il va falloir encore attendre un peu, mais juste pour se rendre compte aujourd'hui du saut technologique que va représenter ces satellites. En gros, un satellite qui va être lancé, donc notamment un par Ariane hein, dans quelques temps, un de ces satellites aura la même puissance que tous les satellites combinés aujourd'hui qui sont au-dessus de nos têtes pour fournir de l'accès à Internet. Donc un seul satellite sera aussi performant que tous les satellites qu'on a au-dessus de nos têtes déjà. C'est en
et
gros
donc,
pour
il y en aura 3 en tout.
Et il y en aura 3.
Et ça couvrira le monde entier ou il y aura des zones d'ombre malgré tout.
Alors il y aura forcément des zones d'ombre, mais il y en aura un qui couvrira d'abord l'Amérique du Nord, un second qui couvrira l'Europe, le Maghreb et un petit peu du Moyen-Orient, ça ce sera un second temps et dont la France, et un troisième qui partira un peu plus tard qui couvrira l'Asie cette fois. Donc on aura quand même une belle couverture mondiale via ces nouveaux satellites. Et donc un satellite hein, juste pour les gens qui aiment les chiffres, ce sera 1 terabit par seconde de capacité, donc c'est quand même
c'est
assez
énorme.
Impressionnant.
Ouais. Après il faut voir si le modèle économique sera acceptable, si ça
exactement.
Coûtera pas
ça coûtera certainement plus cher que la fibre optique ou la DSL hein. Ça c'est déjà le cas des offres satellites qui existent aujourd'hui,
mais ça risque de révolutionner l'internet dans les campagnes, etc.
Ça pourrait le faire effectivement et en tout cas ça c'est intéressant pour les gens qui ne peuvent pas avoir accès à internet. Ce sera une solution en tout cas intéressante
qui fait rêver. Merci beaucoup Eric.
Merci
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef donc de zeronet.com. L'actu de Zéronet qu'on retrouve chaque samedi dans l'atelier. Vous restez là, on va terminer cet atelier avec le crash test d'Antoine Cyr dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, le crash test. Antoine, le point de départ de ce crash test sera...
cocasse.
On en parle dans un instant. Mais auparavant, Guillaume Degroisse est avec nous de l'atelier. Bonjour Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Guillaume, on va parler aujourd'hui de cette monnaie virtuelle qui défraie la chronique, on peut le dire, c'est Bitcoin. Hein. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de parler de Bitcoin, un mot sur PayPal et de la création de PayPal.
Exactement, effectivement, on va parler d'argent aujourd'hui. Et on va revenir en 98, quand une bande de fous dans la Silicon Valley crée PayPal. Dans cette bande de fous, il y en a deux qui sont encore aujourd'hui très connus. L'un qui est Elon Musk, hein, dont on a parlé ensemble, François, sur la voiture, sur le transport. Et un autre qui est un tout petit peu moins connu, qui s'appelle Peter Thiel, mais qui est en fait un des grands investisseurs de la vallée aujourd'hui. Et pourquoi un grand investisseur? Parce qu'il a réinvesti un peu de ce qu'il avait gagné à l'époque de PayPal dans Facebook. Et donc, pourquoi je vous parle de PayPal? Donc on connaît l'histoire, hein, créé en 98, revendu pour 1,5 milliard à eBay en 2002, en 2015 eBay se sépare de PayPal pour la régulation, etc. etc. Bon, voilà, c'est de la vieille histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos amis Elon Musk et Peter Thiel, leur idée avec PayPal, c'était pas du tout de créer un système de paiement. C'était en fait de créer une nouvelle monnaie. Et pourquoi créer une nouvelle monnaie? Parce qu'en fait, eux, leur idée forte derrière, c'était de se libérer, de s'affranchir de l'État et de la Banque centrale. Mmh. Alors, forcément, vous me voyez venir avec ce sujet. hein, puisque c'est exactement ça, ben oui, le sujet derrière Bitcoin.
Ben exactement, Bitcoin, parce que c'est quoi cette technologie de Bitcoin?
Alors effectivement, c'est le sujet, c'est bien un sujet de technologie, hein, c'est-à-dire que on parle de Bitcoin, la monnaie virtuelle, mais Bitcoin, la monnaie virtuelle, ce n'est qu'un morceau de Bitcoin. Dans Bitcoin, il y a trois choses. Il y a le réseau peer-to-peer, ce réseau d'échange. Il y a cette base de données de transactions. En fait, tout le monde connaît son nom maintenant, ça s'appelle blockchain. Et puis, il y a la monnaie Bitcoin. Alors, effectivement, les termes sont tous très proches, donc c'est difficile de s'y repérer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin, c'est effectivement une monnaie, mais c'est avant tout une technologie et un réseau. Et pourquoi je voulais vous parler de PayPal pour vous parler de Bitcoin, c'est que la force du Bitcoin aujourd'hui, c'est que cette base de données, ce réseau, il est libre, il est accessible à tous, il est complètement transparent. On est dans cet univers très open source, hein, qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup à l'atelier. Et finalement, une fois qu'on s'est dit que c'était accessible à tous, libre, transparent, eh ben, il n'y a plus de tiers de confiance qui doit certifier les transactions, puisque tout le monde peut les lire, tout le monde peut les voir. Donc, pas de tiers de confiance, pas d'État, pas de banque centrale. Et voilà, le lien est fait avec nos amis de PayPal.
Alors Guillaume, on annonce la mort de Bitcoin partout. Est-ce vrai ou faux?
Alors, on annonce la mort de Bitcoin. Il y a une crise de croissance du Bitcoin, effectivement, en 2015. Mais c'est une crise de croissance, c'est une crise de jeunesse, hein, parce que finalement, Bitcoin, ça n'existe que depuis 2009. Il y a eu ce grand crash de MT Gox, l'opérateur japonais, l'année dernière. Bon, Bitcoin va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette logique de gouvernance ouverte a fait que les acteurs majeurs du Bitcoin ont adopté une nouvelle ligne, une nouvelle roadmap. On va voir leur capacité à la déployer sur l'année 2016, mais en réalité, ils ont toutes les cartes en main pour faire en sorte que Bitcoin continue.
Voilà, 2016, l'année de Bitcoin, sans aucun doute. Merci beaucoup Guillaume de Groisse, de l'atelier. Et après Guillaume, Antoine, le crash test. Et le point de départ de ce crash test cette semaine, c'est le mot cocasse.
Et oui, le mot cocasse qu'on rencontre évidemment forcément sur la toile, dans les réseaux sociaux, etc.
De temps en temps. Durant des cocktails, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cocasse ?»
Voilà, hein, vous le dites souvent.
C'est vrai, tout le temps.
Alors d'abord, est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot cocasse?
Alors là, pas du tout.
Bon, ben là, allez sur un Wiktionnaire et vous allez la trouver. C'est dérivé de cocard.
De cocard, le...
Eh ben non, voilà, vous savez.
Ah non, mais cocard.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'un cocard.
Cocard.
Alors, qu'est-ce que c'est d'autre pour vous qu'un bleu sur les yeux?
Je ne sais pas, Lida, elle peut peut-être m'aider. Qu'est-ce que c'est le cocard à part un bleu sur les yeux? Non, bon, on sèche.
Antoine.
Eh bien, figurez-vous qu'un cocard, c'est un hybride obtenu par le croisement du faisan et de la poule ou du coq et de la poule faisane.
Ah bah bravo.
Donc c'est une espèce d'animal.
Mais ça n'a rien à voir avec la cocarde.
Non, pas du tout.
Ah bon? Là,
pour le coup, rien du tout.
D'accord.
C'est une espèce d'animal un peu improbable. Et donc, voilà, bah, du coup, le cocasse, la personne cocasse, est comme le cocard.
D'accord.
Un peu étrange. Alors, c'est d'ailleurs, par extension, c'est aussi un vieux coq ou un vieillard un peu ridicule.
Tiens.
Et oui.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Donc, la définition, toujours dans le Wiktionnaire du cocasse, c'est qui est d'une drôlerie bouffonne. Et alors là, ce qui est assez amusant, c'est que qui voit-on dans les exemples qui sont cités par le Wiktionnaire de cocasserie? Eh bien, nous voyons apparaître Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, le grand Manitou de la Formule 1. Vous savez, il a été souvent accusé de corruption. Et donc, l'exemple qui est donné, c'est un jour où il arrive devant un tribunal de Londres pour une affaire de corruption. Eh bien, il crée une situation cocasse à ses dépens en s'enroulant dans une porte-tambour du tribunal qu'il avait emprunté. Alors, emprunté au sens, il était passé par la porte, évidemment.
Oui, il a emprunté.
qu'il avait emprunté pour échapper à des journalistes. Et en fait, comme il est rentré dans une porte tambour et que c'était une porte tambour, la porte tambour l'a renvoyé vers les journalistes
qui se sont empressés
d'essayer, bien entendu, de l'interviewer.
Oui.
Alors, le mot cocasse, évidemment, on le trouve, ce qui est formidable sur la toile, c'est qu'on a des tas de livres maintenant qui sont archivés, des livres très anciens, hein, et donc le mot cocasse était utilisé autrefois. On a par exemple un livre de Eugène de Mascar qui s'appelle « Réponse d'un borgne cocasse à un aveugle classique ». Et donc ce livre, au titre pour le coup « Cocasse », est sorti en 1897. Mais nous sommes évidemment une émission de geek, une émission de création, une émission d'innovation.
Parfois cocasse aussi, hein.
Et bien justement, il y a un article qui traîne sur la toile, qui s'appelle « Les techniques cocasses de nos plus célèbres créateurs pour faciliter le travail de création ». Voilà, donc tapez sur un moteur de recherche « Travail de création et cocasse », vous allez tomber dessus. Et donc, il nous explique que certains des illustres créateurs les plus célèbres utilisaient des méthodes originales pour augmenter leur performance créative. La plupart consistant d'ailleurs à exercer une contrainte physiologique sur leur corps. Par exemple, Rousseau méditait la tête découverte en plein soleil, dans le but de favoriser l'afflux sanguin vers le cerveau. Alors, l'histoire ne dit pas s'il a attrapé une insolation comme ça. Bossuet travaillait dans une chambre froide, la tête enveloppée de fourrure. Schiller plongeait ses pieds dans l'eau glacée. Descartes, Leibniz ou Rossini méditaient horizontalement, étendus sur le sol et parfois blottis dans leur couverture. Philippe Stark aujourd'hui fait aussi comme ça. Quand on lui dit « Mais expliquez-nous de quelle manière vous travaillez », il dit « Non, mais d'abord, je ne travaille pas, je rêve ».
Ah oui.
Alors, Mozart ou Darwin utilisaient pour leur part le mouvement comme moteur d'inspiration, la marche, ou les exercices physiques. Machiavel, Buffon ou Guido Reni préféraient des rituels ou des stimuli auditifs. Il y a des gens qui ont besoin de calme et de silence, au contraire de méditation. C'est le cas de savants et penseurs comme Tycho Brahe, célèbre astronome, qui pendant 20 ans ne sortit pratiquement pas de son observatoire. Donc voilà, c'est une cocasserie de créatif. Ou Leibniz qui pouvait rester 3 jours dans un fauteuil presque immobile. Là aussi, les gens jugeaient cette technique de création cocasse.
Trois jours assis. Sans se lever comme ça.
Vous savez,
il dormait, non, au bout d'un moment.
Non, mais il faut dire que Leibniz devait quand même avoir une activité cérébrale qui consommait énormément d'énergie chez lui.
Ah oui.
Parce que Leibniz appartient à la dernière génération des savants qui savaient tout. C'est-à-dire, il était à la fois un des meilleurs philosophes de son temps et un des meilleurs mathématiciens de son temps.
Donc on peut imaginer que toute l'énergie était pompée par son cerveau.
Exactement.
En fait,
et donc vous remarquerez quand même que cet homme qui est peut-être l'un des plus grands puits de science que la Terre ait jamais porté est associé à l'idée de cocasserie.
Oui, c'est dingue.
C'est quand même incroyable. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc en fait, c'est l'idée que la technique de la veille prolongée, parce que probablement dans ce fauteuil il avait tendance à rester éveillé, c'est l'idée que la veille prolongée provoque un état qu'on appelle l'état d'hyperesthésie donc vous stimule naturellement. Bon, et puis alors bien sûr, mais là c'est beaucoup moins cocasse, il y a beaucoup de créatifs, mais dont le site ne donne pas le nom, qui utilisent des plaisirs en vous temps et finalement nuisibles pour avoir leur activité cérébrale stimulée. Voilà. Je pensais quand même que terminer sur cette stimulation cérébrale, alors qu'on a parlé de casque qui nous aidait à pousser les cheveux, qui nous aidait aussi à jouer au football, etc.
C'était pas mal.
Voilà, ouais, je pense que c'était bien de terminer il y avait aussi un casque qui mesurait d'ailleurs l'activité du cerveau.
Exactement.
C'était bien de terminer par la cocasserie cérébrale.
Antoine, merci beaucoup pour ce crash test. Cet atelier est terminé, mais vous nous avez peut-être pris comme ça en cours. Bien, attendez, ne paniquez pas. Les podcasts de l'atelier sont disponibles à la fois sur le site de BFM Business. Bien sûr, si vous nous écoutez en direct, ce sera dans quelques heures sur BFM Business, mais aussi sur le web de l'atelier www.atelier.net. Vous savez tout, je vous souhaite évidemment un excellent week-end, portez-vous bien. On sera là samedi prochain entre 16h et 18h. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite.